SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Eh bien, aujourd'hui dans le programme, on va parler de belles choses et d'un beau produit avec Marc Darroze. Bonjour.
Bonjour Christophe.
On va parler d'Armagnac.
Oui.
Qui porte votre nom en plus.
C'est ça.
Racontez-nous un petit peu l'histoire de la maison Darroze, parce que ça ne date pas d'hier comme l'Armagnac. Hein.
Non, alors en fait moi je suis plus ou moins la troisième génération. Quand je dis plus ou moins, c'est parce qu'en fait on a démarré dans la restauration dans la famille et en Gascogne, donc dans le sud-ouest de la France.
On sent qu'il y a un bel accent du sud là.
et en fait les premiers... contact de la famille avec le produit Armagnac ont été essentiellement tournés autour du restaurant, puisque le restaurant se situe en pleine Gascogne, et mon grand-père avait deux macarons Michelin à l'époque et avait la chance de pouvoir se promener dans les fermes aux alentours pour acheter des foie gras, des légumes, des gibiers, des volailles. Et lors de ses périples, il avait accès à des petits trésors de stocks d'Armagnac dormants un petit peu, qui faisaient la fierté des familles. Et c'est comme ça que les premières sélections d'Armagnac ont été faites pour le restaurant.
Un stock dormant, c'est parce que les paysans, entre guillemets, les cultivateurs à l'époque, avaient des produits qui transformaient en Armagnac, qui gardaient pour les jours un peu plus durs.
En fait, la Gascogne, et plus généralement le sud-ouest de la France, mais particulièrement la Gascogne, est un pays de polyculture. Et dans la polyculture traditionnelle en Gascogne, il y a la vigne et il y a l'Armagnac. Donc la plupart du temps, dans les années 50-60, les producteurs vivaient sur leur activité céréalière, l'activité autour du canard, autour du foie gras, et considéraient l'Armagnac un peu comme le bas de laine. Donc ils distillaient chaque année leur production de vin. Et puis au lieu de mettre un petit peu d'argent à la banque, ben, ils le mettaient dans l'Armagnac. Et c'était gardé précieusement de génération en génération. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut encore aujourd'hui trouver de vieux millésimes dans les familles.
Et c'est encore vrai aujourd'hui ça, pour les... ça s'est mondialisé ou ça s'est modernisé un petit peu?
Alors modernisé, je ne suis pas sûr que ce soit le terme, parce que c'était assez moderne comme fonctionnement, je trouve. Donc, mais ça a changé parce que l'agriculture a changé et l'agriculture est de plus en plus demandeur de spécialisation, d'outils agricoles qui sont perfectionnés, qui coûtent cher. Donc les producteurs ont été plus ou moins obligés de se spécialiser et donc ont perdu un peu cette diversité. Même si quand même on retrouve encore quelques familles qui conservent un petit peu cette tradition ancestrale. Donc ça existe encore, mais beaucoup moins en effet que dans les années 50, c'est sûr.
D'accord. Qu'est-ce qui fait un bon Armagnac?
Alors,
ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui va différencier un bon Armagnac d'un très bon Armagnac?
Alors, ce qui fait un bon Armagnac, il y a beaucoup de critères. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un produit de patience. Certes, les conditions de production sont très importantes, la tenue de la vigne, la qualité des cépages utilisés, la vinification et la fermentation dans de bonnes conditions également, bien sûr une distillation bien menée, mais après on va rentrer dans un long process de vieillissement qui peut durer 40 ans, 50 ans, où chaque petit détail a son importance, que ça soit les conditions de vieillissement dans le chai, que ça soit la qualité du bois dont on s'est servi pour faire les barriques, le temps de vieillissement dans les barriques neuves, enfin plein de critères très importants qui vont conditionner un bon élevage et à tirer le maximum du potentiel initial de l'Armagnac quand il est distillé.
D'accord. La barrique, ça a l'air important, parce que je suis allé sur votre site internet et la première vidéo, c'est sur les barriques. Parce que c'est là où tout commence, vraiment?
D'abord, on ne parle d'Armagnac qu'après 18 mois de vieillissement minimum. Ce qui est certes très insuffisant pour faire des très beaux Armagnac, mais c'est légalement, c'est 18 mois minimum. Donc ça veut dire que sans barrique, il n'y a pas d'Armagnac. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, notre spécialité chez nous, dans notre maison, c'est les eaux de vie plus âgées. Quand vous gardez des produits pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans au contact d'un récipient et en plus d'un matériau qui est vivant comme le bois, il est évident que la qualité de la matière première utilisée est primordiale pour ne pas compromettre le potentiel initial, voire pour le bonifier, puisque c'est quand même le but, c'est de le bonifier et de l'améliorer.
D'accord. Qu'on comprenne bien, quand vous faites la première eau de vie qui est à la base de l'Armagnac, qui est mise en fût ou en barrique en 1980, est-ce que ce produit voit le jour entre-temps, où vous les transférez d'une barrique à l'autre, vous faites vieillir différemment, ou alors on rouvre 25 ans après et on a la surprise?
Alors, c'est une très bonne question, parce que justement, c'est ce qui fait, tout à l'heure vous allez me dire quelle est la différence entre un Armagnac et un grand Armagnac, ben, c'est justement cette capacité à comprendre l'évolution de l'eau de vie au fur et à mesure du temps et à la travailler. C'est pas, certes ce sont des évolutions très lentes et qu'il faut respecter le temps donné à l'eau de vie, suffisamment de temps pour évoluer. Mais c'est pas parce qu'on donne du temps à l'eau de vie qu'il faut la laisser dormir. Donc en effet, on va utiliser du bois neuf au départ pour démarrer le vieillissement, donc de la barrique neuve. C'est à ce moment-là qu'on va extraire le maximum de tanins, de couleurs. Mais ça serait une grave erreur de conserver l'eau de vie trop longtemps dans cette barrique neuve, parce que sinon on va trop marquer l'armagnac par le bois. On pourra faire une tisane de bois, et c'est vraiment pas le but. Donc il faut régulièrement analyser, goûter. L'analyse elle est assez simple, c'est goûter l'eau de vie pour voir comment elle évolue, de façon à la transvaser dans des barriques plus âgées, où là justement on va calmer un peu la prise de bois, on va commencer à ressentir la complexité aromatique dans l'eau de vie. On va également beaucoup aérer nos eaux de vie, en plus de l'aération naturelle à travers le bois. On va se permettre de l'aérer encore plus pour lui donner ce côté rond, souple, équilibré que l'on va rechercher. Mais tout au long du process de vieillissement, il y a différentes étapes à respecter qui ne sont pas écrites, puisque chaque eau de vie va en fait se comporter différemment au vieillissement, et c'est vraiment là que réside toute la passion et toute la magie de notre métier. C'est qu'on n'a pas de recette miracle, c'est vraiment la dégustation et le comportement de chaque armagnac au vieillissement qui va guider notre travail quotidien.
D'accord. Comment vous décririez quelqu'un qui est un peu lambda, peut-être un Australien qui a jamais vraiment eu l'expérience ou de goûter un bon armagnac? Qu'est-ce qu'on attend en bouche? C'est la question à 1 million de dollars, parce qu'on est en radio, c'est impossible à faire. Et comment vous arriveriez à décrire ça, justement, en bouche? Teneur en alcool, c'est assez fort, mais sans être vraiment très fort. En fait.
Tout le travail d'un éleveur, puisque nous, notre travail, la Maison d'Arros, nous sommes des éleveurs avant tout, distillateurs, éleveurs, consiste justement à obtenir le plus rapidement possible, je dirais, mais rarement avant une douzaine d'années, l'équilibre entre les tanins dont je viens de parler, donc la barrique, les arômes qui sont à la fois des arômes naturels présents dans l'armagnac à la distillation, mais aussi les arômes liés au vieillissement, puisque au contact du bois, bien sûr, les arômes évoluent et le bois a une influence aromatique, et l'alcool. L'alcool qui est toujours présent parce que l'armagnac est un produit distillé. Sans distillation, on ne parle pas d'armagnac. C'est un spiritueux et il est toujours présent dans nos eaux de vie. D'autant plus présent chez nous que nos eaux de vie sont élevées de façon traditionnelle, sans ajouter un petit peu d'eau pour perdre le côté alcool. Donc on a toujours des eaux de vie qui sont un peu marquées par l'alcool. Et tout le challenge de l'éleveur consiste à ce que tous ces trois facteurs soient mariés entre eux. Et certaines eaux de vie vont supporter des degrés d'alcool beaucoup plus forts que d'autres, parce que l'équilibre aromatique sera différent. Et c'est vraiment là le gros challenge que nous fixons quand on démarre un vieillissement, c'est d'obtenir cet équilibre-là et la complexité aromatique.
Et qu'est-ce qui fait qu'il est temps de la mettre en bouteille?
Alors,
parce qu'on a attendu 20 ans, pourquoi pas 25 ans? Il y a un moment.
Alors, c'est beaucoup plus long que 20 ans. En général, la phase critique, c'est plutôt 55 ans, 50, d'accord, 55 ans. C'est à ce moment-là que l'eau de vie commence un peu à s'user au contact du bois. Même si le bois, dans ces cas-là, n'est plus qu'un matériau un peu inerte, il n'y a plus du tout d'apport tannique. Vous imaginez bien, après 50 ans, qu'on ne recherche plus du tout d'apport tannique. Mais le bois étant un matériau poreux, il y a toujours une oxydation qui se fait à travers le bois. Et donc l'équilibre et l'évolution de l'armagnac se fait toujours sous bois. Une fois sous verre, l'eau de vie, et c'est le cas pour toutes les eaux de vie du monde entier, ne vieillissent plus, elles n'évoluent plus. Donc en effet, quand on décide de stopper le vieillissement, on met dans ce qu'on appelle des dames jeunes, qui sont des grosses bouteilles d'une cinquantaine de litres, où là on va stopper l'évaporation, on va stopper ce qu'on appelle la part des anges, donc la perte d'alcool et la perte de volume, donc l'évaporation annuelle.
C'est beau ça, la part des anges.
Les anges ont beaucoup de chance. Les anges ont beaucoup de chance. Ils récupèrent nos évaporations. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va décider d'arrêter. Alors quels sont les critères pour décider d'arrêter? Ben souvent c'est en effet la structure alcoolique, c'est quand on a une vie qui baisse trop en alcool, elle peut s'alourdir un petit peu. Donc c'est essentiellement ça qui va nous guider dans la dans le choix d'arrêter le vieillissement.
D'accord. Il y a une zone géographique spécifique pour l'Armagnac, oui, avec une appellation d'origine contrôlée qui vous protège.
Exactement.
Aussi.
Donc il y a une appellation d'origine contrôlée. Si vous avez, faites bien d'en parler parce que c'est quelque chose qui est contraignant, mais c'est aussi quelque chose qui est très protecteur. Moi, je suis un ardent protecteur et on a beaucoup de chance en France d'avoir ces appellations d'origine contrôlée, même si parfois c'est un peu rigide, c'est un peu les déviances du règlement, mais globalement quand même c'est quelque chose de très protecteur, ce qui fait que l'Armagnac, on peut pas en produire en Espagne, en Australie, voilà, c'est quelque chose de très très local, et nous sommes localisés au milieu d'un triangle Bordeaux, Toulouse, Espagne, donc en Gascogne, le pays des trois mousquetaires.
D'accord. Si on trouve de l'Armagnac qui vient de n'importe où ailleurs, c'est pas d'Armagnac.
Exactement. Alors on subit pas beaucoup de copies. Cognac, honnêtement, qui a un petit peu plus d'image que nous et de notoriété, subit plus de copies que nous. Mais ça m'est arrivé en Serbie une fois de trouver un Armagnac.
D'accord. Et là, c'est quoi? Crise cardiaque?
Non, c'est. Bon, vous savez, c'est.
On l'essaye.
Honnêtement, c'est la.
On l'essaye.
C'est la rançon du succès. Donc, on en est. Moi, si on était un petit peu plus copié, ça voudrait dire qu'on est un peu plus de notoriété. Et on se battrait pour garder notre. Nos particularités, mais bon, il faut accepter ça, c'est le jeu.
Si on parle justement de la notoriété, c'est pas forcément un alcool qui est consommé par les jeunes, ou est-ce que ça change? Est-ce que c'est aussi le but d'amener cet héritage de l'Armagnac peut-être un petit peu plus accessible pour les plus jeunes générations?
Je crois qu'on a beaucoup de chance d'abord. On a beaucoup de chance d'avoir un produit d'histoire. Quand on voit tous les spiritueux qui sont produits dans le monde entier, certains sont très jeunes et s'inventent une histoire. Moi, j'ai 47 ans aujourd'hui. Je fais partie de la génération intermédiaire, je dirais. Il y a des jeunes de 30 ans qui arrivent dans notre métier. Il y a nos aînés qui vont le quitter. Donc, je suis un peu moi entre les deux là aujourd'hui. Et je peux dire qu'on a une chance énorme d'avoir une histoire très très forte dans notre pays. Et il faut en être fier. Et peut-être qu'il y a encore une dizaine d'années, cette fierté par rapport à notre histoire était un petit peu ringard. C'est quelque chose qui revient à la mode. Et les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à l'histoire des produits, des pays, des civilisations, des populations, etc. Donc je pense qu'il faut se l'approprier, tout en essayant, en effet, vous avez raison, de rajeunir un peu notre public, nos consommateurs. On essaie. D'abord, on a les exemples d'autres spiritueux. Je pense au whisky, bien sûr, les whiskies écossais qui ont quand même fait un gros travail d'exploration et de dépoussiérage par rapport à l'image de l'eau de vie. Les rhums aujourd'hui fonctionnent très bien. Donc nous, on est dans la vague, hein, on est dans la vague avec un petit peu moins de. On est un peu moins fashion là, actuellement, quoi. On est un peu moins à la mode, mais la roue tourne et je pense que notre tour arrive. Et en tous les cas, dans la traçabilité, le respect de l'environnement, on dégage, je pense, pas mal de valeurs modernes qui parlent, en tous les cas, qui parlent à nos consommateurs. Mais on a toujours besoin, en effet, de venir à la rencontre des gens, de faire déguster, d'expliquer, d'être fier de nos racines, tout en montrant qu'on est des gens modernes, quoi.
Il vous suffit de choper les hipsters, en fait.
Les hipsters sont assez reconnaissants de ce type de produits-là, ouais. Tout à fait.
Ça, c'est une bonne cible. J'ai une dernière question par rapport au petit Marc Darroze. Tout petit, vous êtes tombé dedans, hein, comme Obélix presque. Est-ce que c'était un poids quand vous étiez plus jeune, en grandissant, ou vous le saviez, c'était votre destinée?
Non, pas du tout. Alors, je vais raconter un peu mon histoire. J'étais pas. Mes enfants sont pas là, ils vont pas écouter la radio, donc je peux le dire.
Ils ont internet, c'est possible.
Ouais. J'étais pas un garçon très mûr rapidement, donc j'étais un peu à l'école comme beaucoup de garçons. En dessous des moyens que mes professeurs pouvaient imaginer.
Peu mieux faire.
Exactement. J'étais le peu mieux faire. Et pendant longtemps, je me suis laissé porter, en fait. Mais j'avais donc mon papa qui était donc à la tête de cette maison d'Armagnac, mais qui avait aussi gardé l'activité familiale de restaurateur. Et tous les week-ends, il recevait en général des groupes au restaurant, puisqu'on on avait aussi une quarantaine de chambres, et notamment beaucoup de laboratoires, des médecins qui venaient, etc. Et il y avait systématiquement tous les dimanches matins prévu une visite déchets avec une dégustation en fin de matinée, avant de revenir au restaurant pour déjeuner. Et comme papa travaillait beaucoup, c'était moi qui étais en charge tous les matins, à partir depuis l'âge de 15 ans à peu près, d'animer cette dégustation là. Donc en effet, sans m'en rendre compte, j'étais baigné dedans, mais sans aucune pression. J'étais au lycée, après j'ai fait une année de fac, et puis au bout d'une année de fac, quand même, je me suis aperçu que en fait, voilà, j'avais certainement des gènes pour faire ça. Donc, je suis parti faire des études en œnologie et j'ai fini avec un diplôme national d'œnologie début des années 90, en 92 exactement. Voilà, et donc j'ai fait du vin après pendant 5-6 ans. Je ne suis revenu à la maison que fin des années 90.
Ça voilà. Fait partie d'apprendre, ça.
Ben oui, là, l'apprentissage, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Hongrie, j'ai travaillé à Bordeaux. Mais tout ce que je connais aujourd'hui sur les spiritueux, c'est papa qui me l'a, c'est mon père qui me l'a appris. Et puis c'est le contact avec les générations précédentes. Puis comme je vous disais tout à l'heure, c'est un produit de patience. Donc ce que les anciens ont d'expérience à vous faire partager est toujours très enrichissant, et c'est là qu'on apprend le plus.
D'accord. Et vous sentez aujourd'hui que vous avez un devoir pour vos enfants de transmettre ça ou pas?
Bah, devoir non. Après, moi je serais bien sûr ravi que mes enfants emboîtent le pas, mais il n'y a pas de pression par rapport à ça. Après, je les vois bien, ils ont 15 ans et 12 ans, donc le petit Baptiste qui a 12 ans est encore petit, mais déjà ils sentent, ils goûtent, alors pas trop l'armagnac, mais plutôt le vin. L'armagnac c'est un peu fort, mais je sens qu'il y a une fibre. Et puis quand on voit son père en permanence
en parler, que Dieu qui brille.
En parler, voilà, et passionné, et voir aussi que bon, j'ai quand même un métier extraordinaire, quoi. En plus d'être dans mon environnement quotidien et faire des produits passionnants et qui me passionnent, je parcours le monde entier pour aller distribuer les produits. On vend nos produits aujourd'hui dans 62 pays, donc c'est quand même une chance extraordinaire que peu ont, et ça, je n'hésite pas à leur communiquer cette chance-là, en tous les cas, leur faire comprendre que c'est un beau métier, quoi.
D'accord, merci Marc Darroze.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.